de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes, comme le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Et comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Indonésie et l'Australie encouragent l'achèvement du processus de ratification de l'IACPA ». Le ministre indonésien de la Défense apprécie la coopération militaire avec l'Australie. L'Afrique du Sud soutient la mise en place d'un accord commercial Indonésie et l'Union douanière d'Afrique australe. Le Kenya ouvrira son ambassade à Jakarta au début 2020. L'Indonésie et le Japon conviennent de négocier des transactions en devises locales. Voici le journal complet. L'Indonésie et l'Australie se sont engagés à encourager le processus de ratification de l'accord de partenariat économique global entre les deux pays, ou abrégé en IACPA. Cela a été déclaré par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et la ministre australienne des Affaires étrangères, Maryse Payne, après une réunion bilatérale de plus de vendredi à Bali, qui a été également assisté par le ministre de la Défense Prabowo Subianto et le ministre australien de la Défense Linda Reynolds. Le vice-président du Parlement indonésien de coordinateur indonésien des affaires économiques et financières, Sufmi Dasko Ahmad, a déclaré qu'il avait prévu que la ratification de l'IACPA s'achèverait le 18 décembre 2019, tandis que le Parlement australien finaliserait le processus de ratification de l'accord le 12 décembre 2019. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a apprécié la coopération dans le secteur militaire entre l'Indonésie et l'Australie, en particulier les exercices conjoints avec les armes des deux pays. Cela a été transmis par Prabowo après avoir tenu une réunion bilatérale 2+2 avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi et la ministre australienne de la Défense Linda Reynolds et la ministre australienne des Affaires étrangères Maryse Payne à Bali vendredi. À cette occasion, Prabowo a remercié l'invitation pour plus d'officiers indonésiens et des cadets indonésiens à participer à l'éducation à l'Académie militaire australienne. La ministre australienne de la Défense, Linda Reynolds, a déclaré que la réunion de quatre ministres indonésiens et australiens, qui a été tenue pour la sixième fois, renforçait que les relations de défense entre les deux pays continueront de croître et de se renforcer. Elle a dit que le TNI et les forces armées australiennes ont effectué plus de 20 communications bilatérales et exercices conjoints chaque année. Cette année, l'Australie a reçu 150 participants d'Indonésie pour une éducation et une formation avec les forces armées australiennes. Le gouvernement sud-africain a exprimé son soutien à l'établissement d'un accord commercial préférentiel entre l'Indonésie et l'Organisation sous-régionale de l'Union douanière d'Afrique australe, ou abrégée ANSACU. Cela a été déclaré par le vice-directeur général des affaires d'Asie et du Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères sud-africain Anil Shukla lors de la consultation bilatérale Indonésie et l'Afrique du Sud en mars du 12e Forum pour la démocratie de Bali à Bali vendredi dernier. Shukla a déclaré que les relations entre les deux pays qui existent depuis plus de deux décennies, depuis 1994, doivent être soutenus par une coopération plus concrète dans le domaine économique. La SACU est l'union douanière d'Afrique australe entre les pays membres, qui se compose de cinq pays de la région de l'Afrique australe, à savoir le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l'Eswatini et l'Afrique du Sud. La secrétaire du cabinet kényan des affaires étrangères, Monica Juma, a présenté le plan du gouvernement kényan d'ouvrir l'ambassade du pays à Jakarta au premier semestre 2020. Cela a été confirmé par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir tenu une réunion bilatérale avec Juma en marge du 12e Forum pour la démocratie de Bali à Bali jeudi. Retno Marsudi a expliqué que les préparatifs ont été faits à partir de maintenant et on espérait que d'ici 2020, le Kenya pourrait ouvrir son ambassade à Jakarta. Les relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Kenya ont commencé en 1979. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Peri Warjio, et le ministre japonais des Finances, Taro Aso, se sont mis d'accord sur un cadre de coopération dans l'utilisation des monnaies locales, à savoir la rupia et le yen, pour les transactions commerciales bilatérales et les investissements directs ou règlements en monnaie locale ou abrégé en LCS des deux pays. La Banque d'Indonésie, dans sa déclaration écrite à Jakarta récemment, a déclaré que le protocole d'accord sur la coopération LCS a été signé jeudi par Peri Warjio et Taro Aso à Tokyo, le Japon. Les monnaies locales sont utilisées, entre autres, dans le commerce et l'investissement direct, ainsi que dans les échanges interbancaires entre le yen et la rupia. La coopération entre les deux pays sera également renforcée par l'échange d'informations et de discussions régulières entre les autorités japonaises et indonésiennes. Bonsoir tout le monde. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le président espère que les entrepreneurs américains optimiseront les opportunités commerciales en Indonésie. » Le président Joko Widodo espère que les entrepreneurs américains optimiseront les opportunités commerciales dans les pays de l'ANASE, en particulier en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le président Jokowi lors de la réception jeudi d'une délégation du Conseil des affaires américains ANASE au Palais Merdeka à Jakarta. Devant une cinquantaine des membres de la délégation du Conseil, le président Jokowi a déclaré que les relations entre l'Indonésie et les États-Unis étaient assez solides, notamment en matière de coopération économique. Il a déclaré que les États-Unis étaient le quatrième partenaire commercial de l'Indonésie. Les investissements américains en Indonésie ont atteint près de 1,2 milliard de dollars américains. Le chef de l'État a également déclaré que l'Indonésie et les États-Unis étaient convenus d'augmenter le volume des échanges à 60 milliards de dollars américains jusqu'en 2024. Au début de ses remarques, le président s'est déclaré prêt à échanger ouvertement des vues sur la coopération entre l'Indonésie, l'ANASE et les États-Unis. En 2018, la croissance économique de l'ANASE était en moyenne de 5,1%, plus élevée que la moyenne mondiale. L'économie de l'Indonésie au cours des cinq dernières années a augmenté de plus de 5%. L'Indonésie et l'ANASE fonctionneront plus rapidement pour obtenir croissance et équité. Le président est ouvert à la coopération avec tout pays afin de réaliser des intérêts mutuellement bénéfiques. Selon Jokowi, à l'heure actuelle, Les États-Unis et les pays de la NASA en matière politique, justice économique sont en bon état. Tandis que le vice-ministre des Affaires étrangères, Mahendra Sirigar, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Conseil des Affaires américains à NASA, Alexander C. Friedman, après une réunion avec le président Jokowi, a révélé qu'un certain nombre de sociétés américaines opérant en Indonésie étaient déterminées à accroître leur investissement. Mahendra a déclaré que les entrepreneurs américains espéraient qu'ils mettraient réellement en œuvre la stabilité et les mesures pour maintenir la croissance et le développement des ressources humaines qui sont devenues la priorité du gouvernement au cours de la deuxième période, car toutes les entreprises présentes ont également apporté un soutien solide dans leurs domaines respectifs et dans le contexte du développement humain plus large. Il a expliqué lors de la réunion que le président Jokowi a expliqué plusieurs engagements et la mise en œuvre de politiques visant à améliorer le climat d'investissement actuel, y compris les étapes de la loi Omnibus qui pourrait résoudre plusieurs problèmes dans le secteur de l'investissement. Des délégations de 50 entreprises américaines de la NASA et de l'extérieur de la NASA ont apporté leur soutien aux 5 priorités du président, du capital humain, d'infrastructures, de réformes économiques, de bureaucratie et bien de simplification de la réglementation. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 8 décembre. On commence par le 8 décembre 1980, le décès de John Lennon. John Winston Lennon était chanteur, auteur, compositeur, instrumentiste, écrivain et militant politique reconnu dans le monde comme le leader des Beatles. Après la dissolution des Beatles en 1970, sa carrière solo a également réussi. Une chanson en chœur très connue dont le titre est Imagine, une chanson qui est devenue plus tard l'un des hymnes du monde pour la paix. Il est décédé à New York à l'âge de 40 ans, abattu par Mark Chapman, son fan fou. Le 8 décembre 1991, la dissolution de l'Union soviétique. Le 8 décembre 1991, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ont signé la charte Belavezha, signée de la dissolution de l'unité et remplacée par la communauté des États indépendants. Alors qu'il y avait beaucoup de discussions sur qui avait le droit de dissoudre l'Union soviétique, Gorbatchev démissionné de son poste de président de l'Union soviétique le 25 décembre 1991 et donné son pouvoir à Boris Eltsine. Le point culminant, l'Assemblée suprême de l'Union soviétique s'est dissoute le 26 décembre 1991, ce qui a également marqué la dissolution de l'Union soviétique en tant que fédération, 4 jours seulement avant son 69e anniversaire. Le 8 décembre 2010, SpaceX lançait le faisceau spatial Dragon, le premier faisceau spatial privé lancé avec succès, est revenu après une orbite autour de la Terre. SpaceX Dragon est une capsule qui peut transporter sept faisceaux spatiaux et des marchandises en orbite terrestre basse. Cette capsule peut lier le segment de la Station spatiale internationale non russe. Dragon a été développé par SpaceX, une entreprise privée nord-américaine. Dragon a été lancé avec la fusée Falcon 9, le véhicule lancé pour la première fois en 2009, avant le dernier vol de la navette spatiale. Le deuxième vol du Falcon 9, après le succès du premier, sera suivi du premier lancement de Dragon. Le premier lancement, a eu lieu chez SpaceX à Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis. Le 8 décembre 2010, Falcon 9 a introduit SpaceX Dragon, qui a été lancé à partir de Cap Canaveral, en Floride. Le lancement a été un succès et Dragon s'est séparé de Falcon 9 environ 10 minutes après le lancement. Ensuite, la capsule revenait sur Terre, précisément dans l'océan Pacifique. C'est le premier événement de l'histoire au cours duquel un faisceau spatial privé atteint l'orbite et est ramené à la surface. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Isi hatimu semua telah tersirat di dua matamu. Simpan segala upaya untuk buatku percaya semua baik adanya.
C'était la chanson intitulée Souda ou en français déjà, chantée par Afghan. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Et voici donc mon Indonésie. Voice of Indonesia avec mon Indonésie, dont le titre est À défaut d'atteindre l'objectif, Pencaksilat devient le champion général des Jeux asiatiques du Sud-Est 2019. L'équipe indonésienne Pencaksilat a émergé en tant que championne générale aux Jeux asiatiques du Sud-Est 2019 aux Philippines. Le succès des forces rouges et blanches est également le premier depuis la dernière fois au Myanmar en 2013. L'Indonésie a remporté le plus de médailles dans la branche sportive d'origine du pays. L'équipe de rouges et blanches a réussi à gagner cette médaille, à savoir 2 d'or, 3 d'argent et de bronze. En fait, l'acquisition d'or est la même qu'à Singapour, en Malaisie et au Vietnam. Mais l'Indonésie a remporté l'argent et est devenue cette fois championne générale aux Jeux asiatiques du Sud-Est. Le dernier jour, l'Indonésie a réussi à ajouter en or 3 argent et en bronze 2 arts martiaux. La médaille d'or a été remportée par la combattante Suci Wulandari en classe A de 45 à 50 kg après avoir battu la représentante de la Thaïlande, Firdau Duromae, dont le score était 5-0. Khairuddin Mustaqim a remporté la médaille d'argent dans la catégorie A de 45 à 50 kg hommes en raison d'une défaite 5-0 contre les héros vietnamiens Le Nguyen Tan Long. Tandis que Hanifan Kusuma a remporté l'or dans la classe D de 60 à 65 kg, ne pouvait être que deuxième. Il a perdu contre le représentant malaisien Muhammad Hazim Muhammad Yusli, dont le score était 2-3. Dans la section de la femme, Jenny Kaus a également remporté la médaille d'argent après avoir perdu contre Tran Titam du Vietnam avec une position en 4 dans la catégorie B de 50 à 55 kg femmes. Alors qu'une médaille de bronze a été obtenue par Hidayat Limonou dans la catégorie B hommes de 50 à 55 kg. On espérait qu'en fait l'équipe pencaksilat obtiendrait une médaille d'or du numéro d'art. Mais la réalité était différente. Sur les 3 numéros d'art masculins suivis, une seule médaille de bronze a été produite. C'est au nom de Dino Bima Sulistianto, dans le numéro d'art en simple homme, qui n'obtient que 460 points. La médaille d'or a été remportée par les Philippines, Imar Tausil, avec une valeur de 470 et l'argent gagné par le combattant de Singapour avec 461 points. Le manager indonésien de pencaksilat Sunarno a admis qu'il était très heureux que cette troupe puisse devenir le champion général des Jeux asiatiques du Sud-Est 2019. Mais il était un peu moins satisfait de l'obtention de la médaille d'or car il n'a pas mesuré d'atteindre l'objectif du gouvernement avec 3 médailles d'or. Il a dit que l'équipe d'arts martiaux indonésien n'avait obtenu que 2 médailles d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. Avec ce résultat, l'Indonésie est devenue le champion général. Sunarno a donc déclaré qu'il procéderait encore une évaluation pour les prochains Jeux asiatiques du Sud-Est. Voilà mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Meski waktu datang. hanya sekedar indah.
Kau tak akan terganti. Kau tak akan terganti.
C'était la deuxième chanson, intitulée « Ta canne terganti » ou en français « Ça ne sera pas remplaçable » chantée par Dea Mirella. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. La suite, voici le magazine Cultura. Les documents historiques prouvent que l'Indonésie était un pays qui a connu la colonisation amère des nations étrangères et le Portugais a été le premier pays étranger à coloniser l'Indonésie au 15e siècle. L'une des régions d'Indonésie qui était autrefois occupée par les Portugais était Ternate, dans la province des Maluku du Nord. Une façon de défendre ce territoire et de construire une forteresse. Chers auditeurs, à Ternate, vous trouverez de nombreuses forteresses laissées par les Portugais et les Hollandais. Une forteresse héritée des Portugais est la forteresse de Kalamata, située à Kayumera, Ternate du Sud. On l'a construit en 1540 au bord de la mer surplombant l'île de Tidore. Cette forteresse a une épaisseur de parois de 60 cm et une hauteur de 3 mètres. Le but de la construction de ce fort à cette époque était de dissiper l'attaque de la direction de Tidore. Au début, cette forteresse s'appelait Santa Lucia ou le fort Kayumera, parce qu'il se trouvait dans le village de Kayumera, mais plus tard on a changé son nom pour Kalamata en guise de reconnaissance pour le prince Kalamata, l'un des princes Ternate décédé à Makassar. Pour arriver au fort Kalamata, si vous êtes du centre-ville de Ternate à la moto, vous n'avez besoin que d'environ 15 minutes. Les caractéristiques portugaises semblent vraies sur la belle architecture de ce fort. En plus d'avoir de nombreux points accérés aux quatre points du vent, ce fort est également équipé de quatre places fortes où il y a chacun plusieurs trousses pour viser les armes. Au sommet de ce fort, les visiteurs peuvent regarder la splendeur du mont Gamalama et d'autres îles autour de Ternate, y compris l'île Tidore. Après un certain temps non traité, en 1994, le fort Kalamata a subi une rénovation complète, de sorte que le fort a été restitué intact sans perdre sa forme d'origine. La beauté de l'architecture du fort, qui est devenue la fierté des habitants de Ternate, a inspiré tous ceux qui l'ont visité. Chers auditeurs, si vous êtes à Maluku du Nord, Ternate, prenez le temps de visiter ce fort de Kalamata. En plus de pouvoir regarder des reliques historiques, vous pouvez également profiter de la beauté autour de ce fort.
Thank you. ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia.
Chers auditeurs, c'était la chanson du groupe musical Armada, intitulée « Asal kau bahagia », qui signifie « Tant que tu es heureux ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Chers auditeurs, écoutons l'Indonésie en couleur. Cette édition parle de Lombok de l'Ouest, accueille une course cycliste internationale. Le tourisme sportif est de plus en plus populaire en Indonésie. De plus en plus d'acteurs et de régions s'intéressent à l'organiser. Cette fois, la région de Lombok de l'Ouest a été choisie pour accueillir la troisième compétition de vélo Custom Cycling Indonesia, ou CCI, 31 en 2019. Auparavant, CCI avait lieu à Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, et la deuxième série à Purworejo, Java Central. Pour la troisième série, l'activité a duré 3 jours, du 6 au 8 décembre 2019, en compétition pour Bupati Cup 2019 ou la Coupe de Région 2019. La région de Lombok de l'Ouest, M. Fauzan Khalid, a déclaré qu'il était fier que Lombok de l'Ouest ait été choisi pour accueillir la troisième CCI en 2019, car l'itinéraire choisi par le comité était la cible du développement touristique du gouvernement du district. Ces itinéraires incluent la route de la zone touristique dans les collines de Mekaki, qui a les beaux paysages. Cet itinéraire est utilisé pour la catégorie Men Elite. Le directeur de cours CCI série 31, Bertali, a déclaré après deux sondages qu'il était fasciné par la beauté naturelle de Lombok de l'Ouest, dont il a décidé que Lombok de l'Ouest était le lieu de la course. Outre la beauté des paysages, la circulation relativement calme est également très favorable aux coureurs cyclistes. CCI participe à un contre-la-montre de 8,5 km dans le contournement de Lombok de l'aéroport international Girimenang Square, toutes catégories confondues. L'autre itinéraire mène à Sekotong sous la forme d'une course sur route de courte distance de 38,1 km, d'une distance moyenne de 51,5 km et de 64,9 km, et d'une longue distance de 109,7 km. Custom Cycling Indonesia, ou CCI, ne concourra généralement que dans les catégories Men Elite, Men Junior, Women Elite, Men Youth, Women Junior et Women Youth. Mais spécifiquement, pour la mise en œuvre à Lombok de l'Ouest, l'organisateur a ajouté deux catégories, à savoir les Masters de catégorie 1, âgés de 40 à 49 ans, et les Master B, âgés de 50 ans et plus. Chers auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kita harus bahagia. Thank you. kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. No no, kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kita harus bahagia.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Yura Yunita dont le titre est Harus Bahagia, qui signifie « Il doit être heureux ». Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Chers auditeurs, cette édition, je vais vous parler d'une chanson de Cyril Sinavia. Après avoir réussi à chanter la chanson intitulée « Setia » du légendaire chanteur Krishe, le 29 novembre 2019, Cyril a réorganisé la chanson dont le titre est « Possessif » du groupe Naïf. Mais la chanson créée par Frankie Indras Moro ou Pépin a changé le titre en « Positive ». Le sens de la chanson a aussi changé, ce qui sensibilise le public à se préoccuper davantage du problème des déchets plastiques. Pour renforcer le sens de ce qu'elle voulait transmettre, Cheryl a changé certaines des paroles de la chanson intitulée « Possessif ». Cette chanson dit que tous les déchets plastiques peuvent être utilisés et recyclés en quelque chose de plus utile. Bien qu'elle ait arrangé et changé les paroles de la chanson, Cheryl n'inclut toujours pas son nom dans les crédits de l'auteur-compositeur. Selon lui, cette chanson est restée intacte de Naïf, même si elle a changé de nombreux arrangements et paroles dans la chanson. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Cyril Sinavia, dont le titre est « Positive ».
Ku ingin tahu, kalau kau mau, ku ingin kita mau. Hentikan itu sebelum terlambat jadi masalah baru. Tanpa terbuang ganggu selalu ku memang.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Thank you.
atas jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasih nan luru.
Of Indonesia.
Gentar gelegar petir yang mengaum buas.
Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekeriang.
Darahku berdentam didi didi dom
didi dom. Jaga 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 didi dom didi dom.
Thank you.
C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voicenews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.